La barge russe. Quotidiennement. Avec Johnny Chief Beck. Sur Jet FM. Barge russe 1077, le jour où le livre nous ébranle. On écoute, comment il s'appelle ? Rich Evans, premier album. Deuxième face, deuxième morceau de la deuxième face. Donc, qui nous ébranle ? J'en ai parlé hier à la barge russe, à la quotidienne que j'ai faite hier, si vous avez pu écouter, que des fois on tombe sur des livres qui changent le monde. Notre monde à nous, bien sûr. Et le monde en total en soi aussi. Car nous sommes des... Nous bougeons dans ce monde, nous faisons des mouvements. Donc revenons à ce livre qui ébranle le monde, qui revient à la raison du succès, d'un succès, de son succès. Je ne parle pas de la célébrité qui a pris son envol au XVIIIe siècle, non. Lorsqu'on s'est aperçu que l'apparence pouvait ouvrir des portes, non, je ne parle pas de la célébrité, je parle d'un succès. Mais du succès qui nous réalise, qui fait de nous le devoir et le pouvoir. Le livre, c'est par le livre qu'a représenté, que j'illustre le succès, que j'illustre ce qui peut ébranler le monde. Le livre que notre inconscient recherche, notre inconscient. Pour un succès, pour la poursuite de mes recherches. Personnellement, c'est ça qui se passe. Et c'était au Portugal. Librairie de seconde main. Le truc, il devait ouvrir à 15h, il a pas ouvert avant 16h. J'ai patienté pendant 1h30 devant. Et là, je regarde, bon, il avait forcément des bouquins en portugais, quelques-uns en anglais et quelques-uns encore moins en français. Et il avait La République de Platon. Donc je l'avais déjà, je crois, à la maison. Mais je l'ai quand même racheté parce qu'il me fallait des livres. Mais je l'ai ouvert que 2 semaines plus tard. Je l'ai ouvert hier. Je l'avais déjà lu. Et dans ce livre, La République de Platon, dans cet exemplaire que j'avais déjà... En fait, je l'avais plus, je l'avais revendu. Eh bien, il y avait une carte de visite à l'intérieur en portugais. Empresa Internacional de Informações, qui date de 1916, fondée en 1916. Bon. Et ouvert à la page, cette marque-page était à la page 273. Je commence ma lecture à cette page. Et là. Incroyable. Maintenant, j'y vais lire avec vous. Je sais pas quand je vais m'arrêter, hein, parce que vraiment, c'est... Je l'avais lu, mais j'avais pas du tout lire, comme il aurait dû. Ou je l'ai lu, mais pas un moment où il fallait que je lise. Là, c'était vraiment un moment où il fallait que je lise. Donc j'y vais. Maintenant, repris-je. Représente-toi, parce que vous savez, Platon, il a des disciples, des élèves. Représente-toi, mais c'est pas Platon qui écrit. Platon n'a jamais rien écrit. C'est Socrate, souvent, qui remettait en ligne ce qu'il disait. Donc maintenant, repris-je, représente-toi de la façon que voici. Non, qu'est-ce que je dis ? Non, c'est Socrate qui n'écrivait rien, et c'est Platon qui écrivait. Pardon. Maintenant, repris-je, Platon, représente-toi de la façon que voici l'état de notre nature, relativement à l'instruction et à l'ignorance. Figure-toi des hommes dans une demeure souterraine en forme de caverne, ayant sur toute sa largeur une entrée ouverte à la lumière. Donc là, bon, je vais vous le dire plus vite, mais il décrit, vous savez, les enchaînés, les prisonniers, qui ne voient rien, qui est un point, mais, et les autres qui vont à la lumière. Et le mec qui va à la lumière, s'il redescend, Socrate le dit, s'il redescend, il va se faire tuer par ceux qui ne voient rien. Il ne va pas être cru. On ne sait pas s'il se fait tuer, mais ça finit comme ça. C'est métaphysique. C'est vraiment les deux couches dans la société. Et ceux qui voient, qui veulent, qui font quelque chose, qui ont la volonté d'aller voir quelque chose, qui ont la volonté, le pouvoir, comme tout le monde là. Hein. Et il y a les autres qui restent, qui préfèrent être avec les ombres, qui préfèrent ne rien voir, ne pas voir la vie telle qu'elle est. Bon, pas parce qu'ils ne pourront rien échanger, soit, mais ceux qui vont voir la lumière, ils le savent aussi, mais ils vont voir la lumière, ils sont plus apaisés, disons. Donc, voilà, s'écria-t-il, un étrange tableau et d'étranges prisonniers qui sont dans la caverne. Il nous ressemble, répondis-je. Et d'abord, penses-tu que dans une telle situation, ils aient jamais vu autre chose d'eux-mêmes et de leurs voisins que des ombres projetées par le feu sur la paroi de la caverne qui leur fait face? Question. Un peu plus loin. Considère maintenant ce qui leur arrivera naturellement si on les délivre de leurs chaînes et qu'on les guérisse de leur ignorance. Qu'on détache l'un de ses prisonniers, qu'on le force à se dresser immédiatement, à tourner le cou, à marcher, à lever les yeux vers la lumière. En faisant tous ces mouvements, il souffrira, et l'éblouissement l'empêchera de distinguer ces objets dont tout à l'heure il voyait les ombres. Que crois-tu donc qu'il répondra si quelqu'un lui vient dire qu'il a vu jusqu'alors que de vains fantômes, mais qu'à présent, plus près de la réalité et tourné vers des objets plus réels, il voit plus juste? Si enfin, en lui montrant chacune des choses qui passent, on l'oblige à force de questions à dire ce que c'est, ne penses-tu pas qu'il sera embarrassé et que des ombres qu'il voyait tout à l'heure lui paraîtront plus vraies que les objets qu'on lui montre maintenant? Beaucoup plus vraies, reconnut-il. Et si on le force à regarder la lumière elle-même, ses yeux n'en seront-ils pas blessés? N'en fuira-t-il pas la vue pour retourner aux choses qu'il peut regarder? Et ne croira-t-il pas que ces dernières sont réellement plus distinctes que celles qu'on lui montre? En fait, le mec qui est dans la caverne, on se demande s'il veut pas, il ne veut pas voir. Même s'il a le truc devant lui, il ne veut pas voir. Et ça, moi je vois ça, ça arrive hyper souvent. Je l'avais déjà parlé dans une barge russe. T'as le mec, tu lui mets devant lui, quoi, ce qui s'est passé, le signe, tout ce que tu veux imaginer, tout. Tout est là, et le mec, il veut pas voir. Il veut, non. Il continue sa vie dans son souterrain, dans son obscurité. Donc un peu plus loin. Et si, repris-je, on l'arrache de la caverne par force, qu'on lui fasse gravir la montée rude et escarpée, et qu'on ne le lâche pas avant de l'avoir traîné jusqu'à la lumière du soleil, ne souffrira-t-il pas vivement et ne se plaindra-t-il pas de ses violences? Ben si, parce que tu le fais chier, quoi. Et lorsqu'il sera parvenu à la lumière, pourra-t-il, les yeux tout éblouis par son éclat, distinguer une seule des choses que maintenant nous appelons vraies? Ben non, c'est ce que je viens de dire, il veut pas. Il ne le pourra pas, répondit-il, du moins dès l'abord. Pas tout de suite en tout cas. Il aura, je pense, besoin d'habitude. Voilà ce qui est écrit. Ce seront les ombres qui distinguera le plus facilement, puis les images des hommes et des autres objets qui se reflètent dans les eaux. Ensuite, les objets eux-mêmes. Les objets eux-mêmes, je pense que c'est les signes, en fait, pas qui se montrent par les objets, qui peuvent, notamment. Ça peut passer par tout, mais... mais le soleil lui-même a sa vraie place qu'il pourra voir et contempler tel qu'il est. Et alors là, après, j'ai écrit, j'ai annoté pouvoir et devoir. Donc, je vous lis pourquoi. Alors, après cela, il viendra à conclure au sujet du soleil que c'est lui qui fait les saisons et les années, le devoir et le pouvoir, qui gouverne tout dans le monde visible et qui, d'une certaine manière, est la cause de tout ce qu'il voyait avec ses compagnons dans la caverne. Parce que s'il est tel qu'il est, c'est bien parce qu'il faut qu'il soit, mais pas tel qu'il il peut être, il peut rester tel qu'il est, donc l'aveugle dans la caverne, mais aussi être l'éclairé, conscient d'un du devoir et du pouvoir, pas d'un devoir et d'un pouvoir, oui, mais aussi du devoir et du pouvoir, en bien plus général. Évidemment, c'est cette conclusion qu'il arrivera. Or donc, se souvenant de sa première demeure de la sagesse que l'on y professe et de ceux qui y figurent, ses compagnons en de captivité, ne crois-tu pas qu'il se réjouira du changement et prendra ces derniers ? Si, certes, une fois que le mec il s'est dit oh, putain mais ouais c'est vrai que si je sors de la caverne, si j'ouvre les yeux, si je me pose des questions, bah, c'est quand même plus clair quoi, c'est quand même mieux, plus sympa.
Je suis de ton avis, dit-il. Il préférera tout souffrir plutôt que de vivre de cette façon-là. Imagine encore que cet homme redescende dans la caverne et aille s'asseoir à son ancienne place. N'aura-t-il pas les yeux aveuglés par les ténèbres en venant brusquement du plein soleil ? Assurément. Mais alors là, c'est par ce moment où tu reviens pas t'asseoir. C'est un sacrifice que tu fais, tu vois. Tu veux plus être un mouton, donc tu te sacrifies à réfléchir, quoi. Tu vois, tu donnes ta vie à la recherche, à la lumière.
Et on reprend bien plus loin maintenant. Mais quoi ? Ne dis-tu pas qu'il y a un bien et un mal pour chaque chose ? Comme par exemple pour les yeux d'ophtalmie, pour le corps tout entier de la maladie, pour le blé la nielle, pour le bois la pourriture, pour les reins et le fer la rouille, et comme je l'ai dit, pour presque toutes les choses, un mal et une maladie qui tiennent à la nature de chacune. Donc la rouille pour le métal et la maladie pour l'homme. C'est les exemples qu'il faut. Or, pour l'humain, or, quand l'un de ces maux s'attache à une chose, ne la gâte-t-il pas et ne finit-il pas par la dissoudre et la ruiner totalement? Donc tu gâtes avec les maladies, tu gâtes avec le sucre, par exemple. C'est sûr que tu gâtes les maladies, tu gâtes le mal avec le sucre. Mais c'est bon, gustativement c'est bon, mais tu gâtes le mal. Ne finit-il pas par la dissoudre et la ruiner totalement? Ouais, ça j'en suis sûr. C'est donc le mal et le vice propre par nature à chaque chose, qui détruisent cette chose. Et si ce mal ne la détruit point, il n'est rien d'autre qui la puisse décomposer. Car le bien ne détruira jamais quoi que ce soit, non plus que ce qui n'est ni un bien ni un mal. Comment en effet serait-ce possible? Si donc nous trouvons dans la nature un être que son mal rende vicieux, sans pouvoir pourtant le dissoudre et le perdre, ne saurons-nous pas déjà que pour un être ainsi constitué, il n'y a point de destruction possible? Alors, la maladie, qui est le vice du corps, le mine, le détruit, et le réduit à n'être plus un corps. Et toutes les choses dont nous parlions, il n'y a qu'un instant du fait de leur vie propre, qui s'établit à demeure en elles et les détruit, aboutissent à l'anéantissement. N'est-ce pas? Oui. Eh bien, considère l'âme de la même manière. Est-il vrai que l'injustice ou quelque autre vice, en s'établissant en elle, demeure, la corrompre et la flétrisse jusqu'à la conduire à la mort, à la séparer du corps? Nullement. D'un autre côté, il serait absurde de prétendre qu'un mal étranger détruit une autre chose que son propre mal ne peut détruire. Oui. Alors, fais attention. Que la mauvaise qualité des aliments, ça c'est important surtout aujourd'hui, hein, actuellement,
la mauvaise qualité des aliments, qui est leur vice, on est avant Jésus-Christ, hein, soit manque de fraîcheur, soit pourriture, soit toute autre avarie, n'est pas, selon nous, ce qui doit détruire le corps. Si la mauvaise qualité des aliments engendre dans le corps le mal qui est propre à ce dernier, nous dirons qu'à l'occasion de la nourriture, le corps a péri par la maladie, qui est proprement son mal. Mais qu'il a été détruit par le vice des aliments, qui sont une chose alors qu'il en est une autre, c'est-à-dire par un mal étranger qui n'aurait pas engendré le mal attaché à sa nature. Voilà ce que nous ne croirons jamais. Très bien, dit-il. Par la même raison, poursuivis-je, si la maladie du corps n'engendre pas dans l'âme la maladie de l'âme, ne croyons jamais que l'âme soit détruite par un mal étranger, sans l'intervention du mal qui lui est propre, comme si une chose pouvait être détruite par le mal d'une autre. La poisse, c'est un mal. Bon, ça c'est justement qu'il rajoute. Le corps tout entier fut-il haché en menus morceaux, puisse contribuer à la ruine de l'âme, à moins qu'on ne nous démontre que l'effet de ces accidents du corps est de rendre l'âme plus injuste et plus impie. Mais quand un mal étranger apparaît dans une chose sans qu'on y joigne le mal particulier, s'agit-il de l'âme ou de quoi que ce soit, une raison de périr. Reconnaître l'immortalité de l'âme, que le mourant devient plus méchant et plus injuste. Nous conclurions que s'il dit vrai, l'injustice est mortelle, comme la maladie. Que l'injustice est mortelle comme la maladie. Ça, c'est très important pour l'homme qui la porte en lui. Et que c'est de ce mal, meurtrier par nature, que meurent ceux qui le reçoivent. Les plus injustes plus tôt, les moins injustes plus tard. Alors, il dit pas qu'il est juste. Hein. Tout le monde est injuste, en fait. Les plus injustes plus tôt, les moins injustes plus tard. Alors, qu'en fait, la cause de la mort des méchants est le châtiment qu'on leur inflige pour leurs injustices. Et là, il reprend du pré-socratisme, du avant-Socrate, avant son maître, en fait, Platon. Ben, si tu fais quelque chose de mal, ça t'est rendu. Et ça a été repris par le catholicisme. Mais bon, ça, c'est une autre. Et alors là, il est écrit « par Zeus !» Point d'exclamation. S'écria-t-il, l'injustice n'apparaît pas comme une chose si terrible. L'injustice n'apparaîtrait pas comme une chose si terrible si elle était mortelle pour celui qui la reçoit en lui. Car ce serait une délivrance du mal. Je crois plutôt qu'on trouvera tout au contraire qu'elle tue les autres autant qu'il est en son pouvoir, mais dote de beaucoup de vitalité et de vigilance l'homme qui la porte en lui, tant elle est éloignée d'être une cause de la mort. Et donc là, si je comprends bien, et j'en suis sûr que c'est ça, donc t'es malade. J'ai beaucoup d'exemples. On continue par Bruce Springsteen, son album Nebraska. Oui, je disais, j'ai beaucoup d'exemples, en fait, des personnes qui avaient le cancer. Dans ma famille, il y en avait pas mal. Eh bien, elles n'ont pas, sur leur lit de mort, elles n'ont jamais, en tout cas, j'étais pas là et je pense pas que ça n'a pas été rapporté, crié la souffrance. Elles acceptaient comme ce qui est écrit par Platon. Hein, je reprends ce qu'il dit. Une espèce de rédemption. Bon, c'est vrai, j'ai fait... Tu t'es en face toutes les injustices que tu as pu faire dans ta vie, et tu es en face à ça. Et il faut que tu te rachètes ton âme, en fait, un petit peu. C'est comme ça que je comprends Platon. Et c'est comme ça que je comprends, aussi. Donc, tout est lié. Donc, pour reprendre... L'injustice, les injustes, finissent par souffrir, quoi qu'il en soit, plus tôt, comme dit Platon, que ceux qui sont moins injustes. Car tout le monde est injuste. Commet des injustices dans sa vie. Enfin, j'ai tout dit, quoi. Je vais pas...
Tuberculosis, folks. Christmas Eve, an old junkie selling Christmas seals on North Park Street. The priest, they called him. Like tuberculosis, folks. People hurried by, gray shadows on a distant wall. It was getting late and no money to store. He turned into a side street and the lake wind hit him like a knife. Cab stopped just ahead under a streetlight. Boy got out with a suitcase. Thin kid in prep school clothes. Familiar face, the priest told himself. Watching from the doorway. Reminds me of something a long time ago. The boy there with his overcoat unbuttoned, reaching into his pants pocket for the cab fare. Cab drove away and turned the corner. The boy went inside a building. Yes, maybe. The suitcase was there in the doorway. The boy nowhere in sight. Going to get the keys, most likely. Have to move fast. He picked up the suitcase and started from the corner. Made it, glanced down the case. Didn't look like the case the boy had or any boy would have. Priest couldn't put his finger on what was so old about the case. Old and dirty, poor quality leather, and heavy. Better see what's inside. He turned into Lincoln Park. Found an empty place and opened the gates. Two severed human legs that belonged to a young man with dark skin. Shiny
black plague hairs glittered in a dim street night. The legs had been forced into the case, and he had to use his knee on the back of the case to shove them out. Legs yet, he said, and walked quickly away with the case. Might bring a few dollars to score. The buyer sniffed suspiciously. Kind of funny smell about it. Is this Mexican leather? He shook. Well, some joker didn't cure it. The buyer looked at the case with gold disfavored. Not even right sure he killed it, whatever it is. Three is the best I can do, and it hurts. But since this is Christmas and you're the priest, he slipped three notes under the table into the priest's dirty hand. Priest faded into the street shadow, seedy and furtive. 3 cents didn't buy a bag, nothing less than a nickel. Say, remember that old Andy Coker told me not to come back unless I paid him the 3 cents I owe? Yeah, isn't that a fruit for you, blowy stack, about 3 lousy cents? The doctor was not pleased to see him. Now, what do you want? I told you. The priest laid 3 bills on the table. The doctor put the money in his pocket and started to scream. I got trouble. People have been around. I need to lose my license. Priest just sat there, eyes old and heavy with years of junk on the doctor's face. I can't write you a prescription. The doctor jerked open a drawer and stood an ampule across the table. That's all I have in the office. The doctor stood up. Take it and get out, he screamed. Hysterical. The priest's expression did not change. The doctor added in quieter tones. After all, I'm a professional man, and I shouldn't be bothered by people like you. Is that all you have for me? 1 lousy quarter G? Couldn't you lend me a nickel? Get out, get out! I'll call the police, I tell you. All right, doctor, I'm going. Christ, it was cold and far to walk. Rooming house, a shabby street, room on the top floor. These stairs off, the priest there pulling himself up along the banister. He went into the bathroom. Yellow wall panels, toilet dripping, got his work from under the wash basin. Wrapped in brown paper, back to his room, get every drop in the dropper. He rolled up his sleeve. Then he heard a groan from next door, room 18. A Mexican kid lived there. The priest had passed him on the stairs and saw the kid was hooked. But he never spoke because he didn't want any juvenile connections, bad news in any language. And the priest had had enough bad news in his life. Heard the groan again, a groan he could feel. No mistaking that groan. Maybe he had an accident or something. In any case, I can't enjoy my priestly medications with that sound coming through the wall. Thin walls, you understand? The priest put down his dropper, cold hall, and knocked on the door of room 18. GNS, it's the priest, kid. I live next door. You hear someone hobbling across the floor. A bolt slid. The boy stood there in his underwear and shorts, eyes black with pain. He started to fall. The priest helped him over to the bed. What's wrong, son? It's my legs, senor, cramps, and now I am without medicine. The priest could see the cramp. Like knots of wood there on the young, clean legs, dark, shiny, black leg hair. 3 years ago, I damaged myself in a bicycle race, and it was then that the cramps started. And he has the leg cramp back and got his dropper. He's just a quarter J kid. I do not require much singing. The boy was sleeping when the priest left room 18. He went back to his room and sat down on the bed. Then it hit him like heavy, silent snow. All the gray junk yesterdays. He sat there and received the immaculate fix. And since he was himself a priest, there was no need to call one.
Donc on peut écouter Call from Priest, un morceau enregistré par Nirvana, Kurt Cobain et William Burroughs qui est aux paroles. Donc pour revenir à Platon, on peut prendre cet exemple. Je ne sais plus le mot que Platon utilise. En fait, celui pour vivre plus longtemps. Et l'autre, l'injuste, voilà, qui a fait moins d'injustice et celui qui en a fait le plus. Donc en fait, on peut voir, pour ceux qui connaissent William Burroughs, il n'a pas fait d'injustice envers lui-même. Écoutez ce que j'ai écrit. Donc on peut prendre cet exemple, comme je vous dis, parce que Burroughs, avec toutes les drogues qu'il a ingurgitées tout le long de sa vie, il est de 1916 et il nous a quittés en 1998, à 82 ans, avec toutes les drogues qui s'enfilaient. C'est quand même, assez hallucinant. Il était, et pourquoi ? Parce qu'il était honnête avec lui-même. Il savait tout ça. Il a fait des cures de désintoxication, il a fait plein de trucs. Il a toujours dit que c'était pas bien de se droguer, mais que quand on est dedans... Une fois, il y avait le mec qui a joué son rôle dans le Festin nu de Cronenberg, il a dit « Oh, faudrait que j'essaie de la drogue avec toi, Jean-Yves. » Et du Burroughs en a défendu. Mais tu fais ça, mais t'imagines pas. T'imagines pas si tu prends de la drogue, à quel point après les dépendances peuvent te détruire. Donc ça pour lui, pour les injustices pour Burroughs. Et au contraire, Cobain, qui rencontra pour ce morceau dans son jardin au Texas, lui, Cobain, il a fumé sa vie des deux côtés. Comme Burroughs le rapporta au Rolling Stone magazine, Cobain, lors de cette rencontre, n'avait pas de lumière dans ses yeux. Il était déjà mort. Donc on peut comprendre que Kurt Cobain était accroché au souterrain de Platon et au maître, au monstre occidental malgré lui. Bah, une fois qu'il y a tout cet argent en jeu, c'était dans les années 90, c'était le bout du monde, quoi. Et d'ailleurs, le pied de nez qu'il a fait à MTV, il a fait que des reprises, quoi. Bon, il a fait un ou deux morceaux à lui, mais à l'acoustique. Tu vois, c'est à l'unplugged. Et ce concert, mais je l'adore, quoi. Il est génial. J'ai regardé plein de fois, d'ailleurs. Je vais peut-être le regarder encore. Bon. Tandis que William Seward Burroughs, lui, recherchait l'accès. Alors, est-ce que Cobain faisait ça aussi ? Eh bien, je pense que non, en fait. Il faisait de la musique parce que c'était son truc, il aimait ça. Mais il n'avait pas cet appel de l'au-delà. Et comme il n'avait pas cet appel de l'au-delà, la machine occidentale, le monstre occidental, l'a ruiné. C'est exactement ce qu'on a vu avec Platon. Quand Platon pose des questions et tout, c'est ça. La réponse, elle est là. Merci William, merci Kurt. What have you seen and dreamt, Pauline? Les jours là-bas, je vis à 14 avec Helmut. Helmut Trotz. Jack FM, quand tu le peux.
prochaine fortune. À 21h30, avec le saut dans l'inconnu, le saut dans l'inconnu, le saut dans l'inconnu. What time?